Midi, hein. Bain de culture avec David Labo.
Bonjour à tous, un tout nouveau musée à Rabat, le musée national de la photographie. Il vient d'être inauguré cette semaine, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Mais on commence par parler cinéma ce dimanche. Le film Adam dans les salles au Maroc depuis mercredi. Dans un instant, nous serons avec Mariam Touzani, la réalisatrice, et Nabil Ayouch, le producteur du film. I feel like the sun, I feel like the rain, I feel like a justified reason for living again. Cause what I've been dreaming, I know that it's real, I know there's just no change in the way I feel. You're into my head and I'm out of my mind, I feel like a justified reason for being alive. Secret, I think you should know. I feel like I just can't keep it. It's deep with me, and I feel like I'm losing control. Can you see my vision of a red hot summer in white?
Something new, I feel a constant craving for being with you. And I have a secret, I think you should know. I feel like I just can't keep it, it's deep with me, and I know that I'm losing control. Can you see my vision of a red hot summer in white? Turning that key inside to get in the moment. Can you see my vision of a red hot summer in white? When there was the feeling, when there was the feeling, when there was the feeling, when there was the feeling. You know, I feel like I just can't keep it. It's deep with me, and 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 I feel like I'm losing control. Can you see my vision of a red hot summer in white? When we were turning that key inside to get in the moment.
Souvenir, c'était en 2002, le chanteur britannique Seal avec My Vision. Le film Adam dans les salles au Maroc depuis mercredi. Nous avons le plaisir ce matin d'être avec Mariam Touzani. Bonjour.
Bonjour David.
Mariam, vous êtes la réalisatrice et puis le producteur du film, Nabil Ayouch. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous deux. On a déjà beaucoup parlé du film dans les médias, ici même sur cette antenne à Midi 1. On rappellera simplement qu'avant sa sortie au Maroc, il a été présenté un peu partout dans le monde, dans des festivals internationaux. Le film en est revenu auréolé de 16 prix. Il était présent dans la sélection officielle à Cannes. Son premier contact avec le public marocain, je crois que c'était le mois dernier ou tout début décembre, au festival de Marrakech. Cette soirée de gala. Bon, ça y est, nous y sommes. Le film est maintenant présent dans les salles. À la rencontre de son public, vous êtes en tournée pour effectuer la promotion. Comment se passe cette rencontre avec le public votre ressenti?
Très très bien, c'était vraiment quelque chose de très émouvant à vivre pour moi, parce que les retours des gens étaient vraiment très très touchants. Vraiment, j'ai ressenti des salles qui vivaient avec le film, qui vibraient avec le film, et à l'issue des projections qui venaient justement livrer des témoignages vraiment très touchants.
J'ai vu le film à Marrakech. Je peux vous dire que depuis ma place, je sentais effectivement l'émotion, les frissons et puis les applaudissements. Avant même la fin du film, il y a eu des applaudissements des spectateurs, des spectatrices qui réagissent à certains sentiments, à certaines scènes qui leur font plaisir. Vous attendiez à des salles aussi vivantes?
Non, surtout Marrakech, c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais agréablement surprise parce que je ne m'attendais pas à des applaudissements à de tels moments. Et c'est très intéressant à chaque fois de voir comment les salles réagissent aux films dans différents pays. Et là, justement, ça m'a quelque part ouvert les yeux sur d'autres choses qu'on pouvait ressentir nous en tant que Marocains en voyant le film. C'était constructif pour moi.
Le fait que ce soit si réactif, c'est au Maroc que cela s'est passé comme cela. Ailleurs, les salles étaient peut-être un peu plus discrètes.
Non,
Non?
elles étaient très réactives aussi, mais c'est vrai qu'on n'applaudissait pas forcément au même moment. On rigolait pas forcément au même moment.
Ça, ce sont les différences culturelles.
C'est intéressant.
Nabil, vous hochez la tête.
Oui, parce que ce que je ressens en ayant accompagné quand même le film dans différents territoires, c'est beaucoup d'empathie. C'est-à-dire que les personnages sont des personnages auxquels on s'identifie. Alors on s'identifie évidemment pas de la même manière selon de là où on vient et selon surtout notre vécu et ce qui nous fait frissonner. Mais en tout cas, cette empathie, elle est là et on l'a beaucoup ressentie effectivement à Marrakech, comme on l'a ressentie à Cannes, toutes ces femmes en Suisse qui nous ont dit, moi ce que vit Abla, je le vis moi aussi.
À Los Angeles, des réactions très très fortes de la part du public, hommes et femmes. Des jeunes et puis des gens beaucoup plus âgés aussi. C'était des publics vraiment très très différents.
Et moi, je m'attendais à ce que le film parle quasi exclusivement aux femmes. Et en fait, je me rends compte qu'il parle aussi beaucoup aux hommes. Les hommes, par exemple, à Rabat, l'avant-première avant-hier, étaient émus aux larmes. Ils sont venus te voir à la fin, je me rappelle. Et ces témoignages aussi, pendant le débat, étaient très, très beaux à entendre.
On peut peut-être dire un petit mot sur l'histoire, planter le décor, de quoi ça retourne, le film Adam.
Ben Adam est l'histoire d'une rencontre entre deux femmes, une jeune mère célibataire, enceinte de 8 mois, qui arrive de la campagne, qui atterrit à Casablanca et qui va être accueillie par une veuve, jeune veuve aussi, qui a une petite fille de 8 ans et qui se bat pour survivre, qui a ouvert un magasin de msemen en bas de chez elle. Et c'est comment cette rencontre fortuite va transformer leur vie.
L'actrice, c'est Nisrine Eradi.
Nisrine
Et je crois,
Eradi,
et Loubna Zabal, qui est donc la dame qui lui ouvre sa porte, qui lui offre un refuge, un toit, pour qu'elle puisse avoir un endroit pour accoucher. Je crois que pour préparer l'actrice, la jeune mère célibataire, vous l'avez orientée vers des associations de mères célibataires. Elle est allée rencontrer des femmes qui vivaient ces problématiques.
Absolument, on a rencontré ensemble des femmes qui vivaient ces problématiques à travers des associations et pas que, aussi à travers des connaissances. Et donc, elle a vraiment écouté leurs témoignages, elle a passé beaucoup de temps avec elles à comprendre, à s'imprégner de leur vécu, à s'inspirer vraiment, à se nourrir de tout cela pour réussir aussi à construire ce personnage. Et ce qu'il y a de très très beau chez Nisrine, c'est qu'elle a vraiment tout donné dans ce film et elle a compris la profondeur de ce que vivait cette femme, même sans avoir été mère elle-même. Parce qu'au début, je pensais qu'il fallait être mère pour comprendre ça, avant de commencer mon casting. Mais quand j'ai rencontré Nisrine, je me suis rendu compte que j'avais eu tort.
Pour le coup, vous êtes mère, vous avez commencé à écrire le scénario, l'histoire du film avec Nabil alors que vous étiez enceinte, et vous dites que ça a résonné fortement en vous, à ce moment-là, la maternité et ce qui pouvait se passer chez cette jeune femme. Ça résonne aussi dans votre parcours personnel, votre histoire familiale. Il y a une histoire similaire qui s'est produite dans votre famille?
Absolument, parce que ce film justement est né de cette rencontre-là, ce désir de raconter cette histoire est vraiment ancré dans une réalité. Moi, je suis tangéroise et il y a 17 ans, quand je suis revenue de l'université en fait, j'ai fait mes études à Londres et en rentrant, j'avais passé quelques mois chez mes parents. Un jour, une jeune femme enceinte est venue taper à notre porte. On la connaissait de rien, c'était une inconnue, mais voilà, elle était enceinte de 8 mois, elle était seule, elle avait peur, elle était désemparée. Mes parents ont décidé de de la faire entrer quelques jours pour l'aider. Et ces quelques jours se sont transformés en quelques semaines. Et donc, voilà, elle est restée avec nous jusqu'au moment où elle a accouché. Et elle est allée donner son enfant en adoption. Et moi, je l'ai accompagnée. J'ai vécu tout ça avec elle jusqu'à la fin. Et donc, comme vous pouvez bien imaginer, c'est quelque chose qui m'a profondément marquée, qui m'a bouleversée. Et donc, 17 ans plus tard, quand je suis tombée enceinte, en devenant mère, j'ai réellement compris dans ma chair, j'ai ressenti ce qu'elle avait vécu, la violence de ce qu'elle avait vécu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire de manière vraiment pas réfléchie, mais il fallait juste que cette histoire sorte.
Cette histoire, elle vous a marqué profondément, durablement, à jamais. Est-ce que d'une certaine façon, vous imaginez peut-être que vous pourriez retrouver cette femme maintenant par le biais de ce film très médiatisé, donc elle en entendra forcément parler?
Ah oui, non seulement je l'imagine, mais je le souhaite profondément. D'ailleurs, je lui ai écrit une lettre ouverte que j'espère pourra croiser son chemin. Et puis, si ce n'est pas cette lettre, j'espère que ça sera ce film. C'est vraiment, pour moi, ça a un vrai sens qu'elle puisse voir ce film parce que j'espère qu'elle comprendra. Je veux en tout cas, j'aimerais qu'elle comprenne, qu'elle sache qu'elle m'a jamais quittée, qu'elle a compté pour moi et que ce secret que j'ai vécu avec elle, que j'ai gardé aussi, et que cette période que j'ai traversée avec elle m'a bouleversée et a fait de moi aussi la personne que je suis aujourd'hui, parce qu'elle s'est vraiment ancrée très profondément en moi. Et j'aimerais bien quelque part qu'elle puisse trouver du soulagement, que ça puisse penser quelque part ses plaies, parce que je ne sais pas, peut-être que le fait de savoir que ce film va contribuer d'une manière ou une autre à donner une voix à des femmes qui vivent la même chose qu'elles, je ne sais pas, peut-être que ça lui donnera de l'espoir ou du réconfort.
On parlait tout à l'heure du travail de la comédienne de Nisrine pour se préparer au tournage. Sa rencontre avec des mères célibataires, la société civile au Maroc depuis bien longtemps s'est emparée du sujet. Ici, à Tanger, vous dites que vous êtes tangéroise, on a une association qui se bat sur ce thème depuis une dizaine d'années pour accueillir des mères célibataires, leurs enfants et ouvrir ainsi à ces femmes une autre voie que celle de l'abandon, ce qui s'était passé pour cette dame dont vous nous parliez à l'instant. L'association s'appelle 100% Maman. Vous la connaissez?
Si, je sais.
Elle accueille en moyenne plus de 200 femmes par an. J'ai demandé à sa présidente de me dire ce qui avait progressé sur ce sujet au Maroc ces dernières années et puis aussi ce qui restait à faire. On écoute sa réponse. Elle s'appelle Claire Trichot.
J'ai à vrai dire un peu de mal à parler de progrès quand il s'agit de la situation des mères célibataires et de leurs enfants au Maroc. Il s'agit en effet d'un des collectifs les plus discriminés et qui subit une violence extrême et intolérable encore aujourd'hui. C'est vrai que si je porte un regard un peu plus constructif ou bien optimiste, il est vrai que le Maroc dispose d'un arsenal juridique administratif plus large depuis une dizaine d'années, qui est censé apporter une plus grande égalité à ces femmes, moins de discrimination, une certaine protection. Bien entendu, c'est relatif et il y a encore un énorme défi, c'est l'application des lois. L'application des lois tout d'abord de la part des administrations et de leurs fonctionnaires qui nous démontrent, je dirais, chaque jour dans les administrations qu'ils ont un manque de connaissances sur les lois et sont encore porteurs d'actes discriminatoires vis-à-vis de ces populations les plus vulnérables. Il y a aussi la grande nécessité d'une réforme du code de la famille qui limite encore aujourd'hui les droits individuels, notamment de la femme, et notamment le droit à disposer de leur corps. Et puis, bien entendu, une égalité avec l'homme.
Voilà, Claire Trichot de l'association 100% Maman. Mariam, une réaction à ce que vous venez d'entendre?
Oui, c'est sûr que les lois avancent, mais qu'elles avancent très lentement et surtout qu'elles ne sont pas appliquées. Mais moi, je pense que afin de faire, c'est-à-dire ce travail associatif qui est fait est vraiment formidable et heureusement que toutes ces associations existent et qu'elles soutiennent ces femmes et qu'elles soutiennent ces enfants. Mais à mon avis, c'est-à-dire rien ne changera réellement si les mentalités n'évoluent pas. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut trouver d'autres moyens de se battre contre ça, à travers des films,
à travers le cinéma. C'est ce que vous espérez, que ça puisse faire réfléchir, que ça puisse contribuer à cette évolution des mentalités?
Absolument, j'espère que ça puisse, à travers l'émotion, à travers l'humain, toucher quelque chose d'autre, et, c'est-à-dire nous faire réfléchir autrement. Et je pense que si on change notre regard, parce que c'est-à-dire tout part de cette pression sociale, si on arrive à changer notre regard, forcément je pense que les lois ne pourront que suivre.
Il y a eu Adam sur ce sujet. Il y a Adam actuellement au cinéma. Il y a eu aussi Sophia récemment de Meryem Mbarek. L'histoire est très différente, mais bon, d'une certaine façon, la problématique est abordée. Il y a eu aussi un film documentaire de Mohamed Nabil qui s'appelle « Joyau de la tristesse ». Comment vous expliquez que ce sujet revienne aussi régulièrement comme cela aujourd'hui dans le cinéma marocain ? C'est un sujet qui traverse la société, qui agite la société, les esprits.
C'est quelque chose qu'on vit, tout simplement. C'est quelque chose qui fait partie de notre réalité. Puis il y a ceux qui choisissent de pas voir, de pas écouter, et d'autres qui ont justement envie de pouvoir raconter cette vérité-là qui est autour d'eux, qui est flagrante. Donc je pense que c'est pour ça.
Mariam et Nabil, vous restez avec nous. On marque une petite pause musicale. On écoute les frères Maigri, Lily Twill, et on se retrouve juste après.
Média, bain de culture avec David Labo.
Nous sommes toujours avec Nabil Ayouche et vous, Mariam Touzani. Sur le film en lui-même, sur Adam, ses qualités artistiques, on est sur une économie de moyens, on est en quelque sorte dans un huis clos, tout se passe dans la même maison, celle qui accueille Samia. Il y a peu d'action, mais il y a un soin extraordinaire apporté à l'image, à l'éclairage. Moi, ça m'a renvoyé à de la peinture, vous savez, l'éclairage à la bougie, j'ai pensé au peintre Le Nain. Vous, dans une interview, vous avez entendu aussi parler du peintre Vermeer.
Vermeer, Caravage, de la Tour, ce sont des peintres qui m'ont énormément inspiré, qui m'inspirent toujours. Et c'est-à-dire, ils ont trouvé une voie d'expression. J'ai cherché, j'ai puisé chez eux, je pense inconsciemment, dans ce film. Et ils s'expriment quelque part à travers ce film aussi.
C'est un film sur les femmes, sur deux femmes. Il y a une grande sensualité. Il y a ce rapport qui est délicat, qui est compliqué entre cette jeune femme et cette femme plus âgée qui lui ouvre sa porte. Les rapports sont assez rugueux par moments. Il se trouve que la dame qui l'accueille est une femme seule également. Elle élève toute seule sa petite fille. Et on voit qu'elle se consacre entièrement à cela, au fait d'élever son enfant et à se bagarrer, à continuer à avancer dans la vie. C'est une femme qui ne sourit plus vraiment. Qui ne serait même pas du tout.
C'est une femme qui s'est totalement fermée à la vie, qui est morte à l'intérieur, qui s'est fermée à ses émotions. justement, qui va devoir renaître à la vie. Parce que c'est un film où il y a quand même une naissance d'un côté et une renaissance d'un autre côté. Et pour moi, c'est cette rencontre, justement, qui fait ce genre de rencontres inattendues, parfois, qui font faire que notre vie puisse être transformée.
Elles vont se retrouver autour de l'activité de la dame qui l'accueille. Elle est pâtissière. Mmh. Et il se trouve que la jeune femme qui vient d'arriver, elle a des talents, elle aussi, de cuisine. Elle lui apprend des recettes. Elle lui conseille de mettre en vente de nouveaux produits. Et puis, il y a cette scène formidable où elle lui apprend à pétrir la pâte. On le voit, elle est dans le sacrifice. La première, celle qui accueille, il n'y a plus de jouissance dans la vie. Elle est dans la survie. Et elle essaye de lui communiquer ce rapport à la pâte et à la vie, à la passion. Cette scène, elle est assez prodigieuse.
Si, elle apprend, elle essaie de lui réapprendre réellement la vie, justement. Et ça passe aussi par cette pâte qu'elle pétrit, mais qu'elle ne ressent plus parce qu'elle s'est complètement fermée à tout ça. Donc, c'est par cette pâte aussi, par ce travail-là, que j'avais envie de raconter l'intériorité de ces personnages-là. Vous avez parlé de détails tout à l'heure. Pour moi, tout est dans le détail dans ce film-là. C'est-à-dire, j'ai tout pensé de cette manière-là. Pour moi, c'est à travers ces petits détails insignifiants, des choses qu'on ne voit pas, auxquelles on ne fait pas attention en général. C'est-à-dire, c'est là où je sens parfois qu'est tout le sens des choses. Et donc, c'est à travers le travail de cette pâte que cette femme va pouvoir se redécouvrir et que ce rapport entre elles va évoluer.
Il y a le rapport avec la pâte, il y a le moment aussi... Où il y a de la danse, en fait. On lui fait écouter de la musique. La musique aussi, c'est la vie qui envahit, enfin, cette maison qui est un peu... On est dans une atmosphère un peu étouffée. Et voilà, c'est par le biais de ces sensations, on est sur la musique, on est sur le toucher, la faire revenir dans la vie. En fait, tout tourne autour de la vie. Hein. Et puis, il y a cet enfant qu'on attend et qui va apparaître, Adam. C'est un bébé. Il a 2 semaines, je crois, le vrai bébé.
Il a 2 semaines, oui.
Vous l'aviez casté, il était encore dans le ventre de la maman.
Oui, c'est ça.
Vous avez eu un bon feeling, vous avez dit, ce sera lui.
C'est une échographie.
Ouais, c'était le coup de foudre au moment de l'échographie, un casting sur échographie. Le destin de ce tout jeune film Adam qui commence son exploitation commerciale, je crois qu'il s'est bien vendu à l'étranger, Nabil Ayouch.
Il s'est très bien vendu à l'étranger et surprenamment dans des territoires qu'on n'a pas l'habitude de voir explorés par des films de ce côté-ci du monde, puisque au-delà des territoires habituels européens, la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, la Suède, etc., bah, il est allé franchir l'Atlantique pour aller se vendre aux États-Unis, un très beau distributeur qui a mené tambour battant la campagne des Golden Globes et des Oscars, puisque le film représente le Maroc aux Oscars, mais en Amérique du Sud aussi, au Mexique, au Brésil, en Argentine, et puis il est allé aux confins de l'Asie, puisqu'il a été vendu en Chine, au Japon, en Corée du Sud, enfin, il a surtout été vendu à de très beaux distributeurs qui prennent soin du film et qui le sortent dans de très belles salles, de très belles conditions, là.
Formidable. La sortie en France, ce sera début février.
Oui, parce que Mariam a voulu d'abord le sortir au Maroc, avant qu'il aille ensuite en Europe. Et donc, 5 février, il sort concomitamment en France, en Suisse romande et en Belgique.
C'est la moindre des choses que ce film sorte au Maroc en premier.
N'est-ce pas ?
Film marocain, présenté en priorité au public marocain. En France, je crois qu'il y a 100 de copies,
oui.
Donc il devrait être bien, bien visible.
Oui, c'est Ad Vitam qui le distribue en France et qui effectivement fait une belle sortie autour d'Adam.
Longue vie à Adam. On encourage les auditeurs à venir voir le film pour les images, pour l'intensité, l'émotion, le jeu d'acteur, le jeu d'actrice. Loubna Azabal, absolument incroyable, formidable. Et puis pour Nisrin Eradi, qui est aussi formidable dans le rôle de cette jeune femme célibataire. Merci beaucoup Mariam Touzani et Nabil Ayouch d'être venus dans Bain de Culture ce dimanche. Et puis bonne tournée.
Merci.
Merci à vous.
Midi 1, David Labou.
She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Te amo, mami, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I'm gonna
don't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me.
He got that green eyes, giving me signs that he really wants to know my name. Hey, I saw you looking from across the way, and suddenly I'm glad I came. Ay, ven para acá, quiero bailar, toma mi mano. Quiero sentir tu cuerpo en mí, estás temblando. Green eyes, shaking your time, and I will know we'll never be the same. I love his lips, cause he says the words. Damn, mommy, damn, mommy. Don't wake up, this love is like a dream.
So join me in this bed, the iron, push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in line. I won't stop until the angels sing.
Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me.
Flawless diamonds in a green field in Buenos Aires until the sun's rising. We won't stop until the angels sing.
Jump in that water, be free.
Come south of the border with me.
Jump in that water, be free.
Come south.
Your life, you wanna shine, you gotta get more eyes. Am I your lover or I'm just your vice? A little crazy, but I'm just your type. You want the lifts and the curves, need the whips and the furs and the diamonds I prefer. In my closet, his and hers. Hey, he want the little mama cedar margarita. I think the egg got a little jungle fever. Hey, you want more than something boring. Legs up and tongue out, Michael Jordan. Go exploring, something foreign. Bust it up and rainforest if you pouring. Like you need me, rub me like a genie. Pull up to my spot in a bikini, cause you gotta see me, never leave me. You got a girl that could finally do it all. Drop an album, drop a baby, but I never drop the ball.
Diamond, push up for me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. We won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Come south of the border.
Média, bain de culture avec David Labeau.
Bonne culture, la suite, c'était mardi dernier à Rabat, Mehdi Kotbi, le président de la Fondation Nationale des Musées au Maroc, et Abdelaziz Al-Idrissi, le directeur du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, aux côtés de plusieurs jeunes photographes marocains. Ce lieu, ces derniers l'espéraient ardemment, depuis longtemps, un musée national consacré à la photographie. C'est chose faite, une première exposition est en place, on vous en parle dans 3 minutes. Le temps d'une respiration musicale, il s'appelle Teamed Up et la chanson c'est Moira Guint.
Du haut de tes talons de glace, tu danses et tu t'éclipses. Tu traces ta route dans ton blouson dégueulasse, les mains hautes, tendues sans réponse, creusées sans espoir, sans l'once. Dans l'endemain qui pourrait dire je t'aime et parfois même te dire que tout est bon. Tes baskets défoncées, tes vêtements de prêt-à-porter, c'est dans mon cœur que j'aimerais te porter. Moira Guint, le vent dans tes cheveux défaits, tu t'es dissimulé vers un ailleurs. Tes lèvres grises et de rancœur de n'avoir pu effleurer les miennes. Je rêve que tu n'as plus peur et que l'on découvre ensemble les rues de Sienne. J'espère partager ta tendre mélancolie. Mes jours sont de marbre, bien plus noirs et tristes que mes nuits. La pluie sourde et déluvienne abîme cette scène. Je me jette dans la Seine. Je me jette dans la Seine.
Métaphore d'un laisser pour compte qui va et qui vient, ne fait que passer. Car oui, l'amour se défile et défile, il nous casse la gueule sans trop de difficultés.
Chanteur Tinned Up dans Ban Culture sur Média. C'est un ancien danseur hip-hop, il est aujourd'hui photographe, le Casablancais Yorias. Et puis elle vient de France, Karine Dolek est journaliste, critique, commissaire indépendante d'exposition. Tous les deux, ils se sont rencontrés à Tanger l'an dernier, lors d'un événement consacré à la photographie, ça s'appelait Face à la mer. Ils ont bien accroché ensemble, ils ont gardé le contact. Et quand Yorias a été sollicité par la Fondation Nationale des Musées du Maroc pour mettre sur pied la première exposition du tout nouveau musée national consacré à la photo, Yorias s'est souvenu de Karine, il l'a appelé et ensemble ils ont monté cet événement. Vous pouvez vous y rendre, c'est à Rabat donc, ce nouveau musée fait face à la mer, on y revient, face à l'océan en l'occurrence. Il a pris possession d'un lieu historique bien connu des Rabatis, Borj El Kébir, un ancien fort militaire. On retrace l'histoire de ce lieu avec Antoine Cavallero.
Si vous voulez vous rendre au fort, il vous suffit de longer la côte, la vallée du Bourg-Y dans votre dos. Vous laissez la casbah des Oudayas sur votre droite, vous passez le phare, vous longez le quartier océan. Borj El Kébir est à droite, face à l'Atlantique. Une coupole bétonnée, entourée de profonds fossés, aux talus soigneusement maçonnés. Au pied de ces talus, des grilles de fer forgées ceinturent l'ensemble, deux énormes canons au sommet du fort. C'est le sultan Moulay Hassan qui en a lancé la construction en 1888. C'est un bon exemple du jeu de rivalité entre les puissances européennes. À l'époque, ces dernières s'interrogent encore sur l'avenir du royaume chérifien. Il y a un bras de fer entre les Français et les Allemands. Ce sont ces derniers qui encouragent le sultan à bâtir ce fort. Il est baptisé Rothenburg, du nom de l'ingénieur allemand chargé des travaux. L'Allemagne offre au sultan deux énormes canons de 30 tonnes venus tout droit de Hambourg, espérant ainsi s'attirer ses bonnes grâces, lui qui tente désespérément de garder son pays à l'abri de la colonisation. Le sultan s'éteindra quelques années plus tard, en 1894. Il a réussi à préserver l'intégrité territoriale de son pays. 1902, le fort est achevé. 1906, la conférence d'Algeciras place le Maroc sous contrôle international. 1912, la France impose son protectorat. Le fort Rothenburg devient le fort Hervé. Ses canons resteront à jamais silencieux. Le fort n'a jamais été utilisé militairement.
Voilà Antoine Cavallero pour l'histoire de ce lieu qui accueille le Musée National de la Photographie. Et nous sommes maintenant en ligne avec Karine Dolek. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire associée de l'exposition. Vous avez travaillé à la mise en place des différentes photos de ce premier événement. On vient de décrire le lieu dont le musée a pris possession. Quels étaient pour vous les défis à relever, les contraintes imposées par ce lieu historique et puis ses atouts aussi également, j'imagine?
Je ne sais pas si on peut vraiment parler de contraintes et d'atouts. C'est un lieu finalement comme un autre, avec des choses auxquelles il faut s'adapter et des endroits dans lesquels il faut se faufiler. C'est un fort sur le bord de mer, donc c'est un endroit historique qui a son histoire militaire, qui est sublime. C'est un endroit magnifique. Et ça, ça a été un plaisir à investir. Et c'est aussi un endroit qui a beaucoup d'espaces différents avec lesquels on a pu jouer. On a pu jouer avec des salles, on a pu jouer avec des couloirs, on a pu jouer avec des espaces extérieurs. Et ça, ce n'était pas vraiment des contraintes, c'était tout simplement des lieux d'exposition à investir et dans lesquels faire s'intégrer des travaux de photographes qui s'y prêtaient. Donc nous, notre travail, ça a été de pousser chaque concept, chaque série, de façon à voir de quelle façon on allait lui faire rencontrer le lieu.
On est dans un fort, on l'a décrit, hein, quelque chose à la base de super protégé, de très fermé. Mais en même temps, vous avez voulu et pu ouvrir l'espace, utiliser tout ce que le lieu offrait, l'intérieur bien sûr, mais aussi l'extérieur.
Oui, parce que Yacine le dit souvent, mais l'espace urbain, ça reste le meilleur espace d'exposition du monde. Tout le monde peut regarder ce qui se passe dans la rue, tout le monde peut regarder ce qui est visible au-dessous, et c'est là qu'on sert vraiment les propos des gens et le propos des photographes. Donc nous, on a aussi utilisé les espaces extérieurs du fort, c'est-à-dire la cour d'enceinte, où nous avons exposé le travail de Mohamed Kilito, qui est justement sur des profils un petit peu atypiques, un peu différents de la cité marocaine. Ça se prêtait parfaitement à cet endroit, c'est visible aux yeux de tous. Quand les gens marchent dans la rue autour, ils le voient en contrebas, ils le voient dans la cour, en très grand format, et c'est magnifique. On a fait pareil avec Hamza Ben Rachad, qu'on a choisi de mettre en façade mer. C'est un travail sur l'invasion du plastique dans la vie quotidienne des gens, et est-ce qu'on pouvait vraiment trouver un meilleur endroit pour le mettre que la façade de la mer, avec tous les déchets plastiques qui viennent se déverser et qui sont au pied des images qu'on a voulu géantes, visibles encore une fois aux yeux de tous.
Donc il y a ces clichés qui sont exposés à l'extérieur du musée, des clichés géants qui peuvent être donc aperçus, regardés par les gens du quartier, par les gens qui passent aux alentours de l'endroit. Il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur du musée. Question très très naïve du néophyte, comment on accroche des photographies? L'art est la manière d'accrocher des photos pour les mettre en valeur et donc pour accrocher le regard aussi au passage.
Alors, c'est pas bête du tout. Par contre, il n'y a pas vraiment de recette. Il faut venir sur le lieu et il faut vraiment penser à faire se rencontrer ce qu'on veut nous et ce que souhaite le photographe et ce que permet le lieu. Par exemple, au cœur de l'exposition, vous allez voir en entrant le travail de Ismaël Zaidi face au travail de Mourad Fedouache, par exemple. Ismaël Zaidi, qui est un jeune photographe de Marrakech, qui fait des photos très esthétiques, très aboutie, très douce, avec une lumière très travaillée. Et face à lui, il y a Mourad Fedouache, qui est justement dans le quotidien, dans un quotidien d'un quartier très très populaire, très proche, très intime, très quotidien, très comment dire, instantané aussi. Et on a voulu les mettre en valeur. Donc ces deux-là sont au cœur de l'exposition parce qu'on voulait qu'ils se fassent face, puisqu'ils sont tous les deux, on va dire, à une extrémité du spectre. Donc d'un côté, vous avez Zaidi avec un mur de fond qui est légèrement vert. Ce mur de fond met en valeur ces tonalités qui sont très 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 mauves et très très roses. Et en face, vous aurez Mourad Fedouache avec un mur de fond qui lui est gris légèrement bleuté. Et ça met en valeur ces couleurs très lumière naturelle avec de l'orangé par exemple. Donc ne serait-ce qu'avoir des jeux avec les fonds et les couleurs, les tons principaux des séries, ça aide à les voir mieux.
On fait en sorte que les œuvres puissent se répondre, qu'il puisse y avoir que ça fasse sens l'ensemble en fait.
Exactement. Donc au-delà de l'image, il y a une volonté. Au-delà de l'image, il y a une sensibilité, il y a un univers. Et cet univers-là, nous on est là pour le traduire du mieux possible et pour le rendre appréhendable, pour le rendre sensible en fait aux visiteurs.
Karine Dolec avec nous dans Ban Culture. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour répondre à ces questions.
Mais je vous en prie, merci beaucoup à vous.
On écoute Moussa Cabrioli et juste après on retrouve Yurias, le photographe qui a donc coordonné cette toute première exposition au Musée National de la Photographie à Rabat. A tout de suite.
Je t'aime comme un allumé, j'ai le cœur à 1000 watts. Elle est toi comme des chalumeaux qui dévorent ta silhouette. Elle est belle, elle est svelte, soleil ardent sur l'asphalte. Putain de merde, rappelle-moi sur quel pied je danse. Comme un allumé, j'ai le cœur à 1000 watts. Elle est toi comme des chalumeaux qui dévorent ta silhouette. Je l'emmène dans mon cabriolet, elle fait des sauts de cabriolet. Rappelle-moi sur quel pied je danse.
pas comme un allumé. J'ai le cœur battant et les courbatures. Tellement chaud que mon sang fait des bulles. Elle est belle, elle est brune, elle a des flammes dans les prunes. Elle a... Rappelle-moi sur quel pied je tombe comme un allumé. J'ai le cœur battant et les courbatures. Tellement chaud que mon sang fait des bulles. Elle est belle, elle est brune, elle a des flammes dans les prunes. Elle a... Rappelle-moi sur quel pied je tombe.
Nous sommes en ligne avec Yacine Ismaili, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Casablancais, les amateurs de photographie vous connaissent mieux sous votre pseudo Yorias. C'est à vous que l'on a confié le soin d'organiser la première exposition au sein de ce tout nouveau musée. Vous aviez carte blanche pour ce faire. Vous avez fait appel à d'autres photographes, hommes, femmes. Qu'est-ce qui a dicté votre choix? Cela s'est fait sur quels critères? Pourquoi celui-ci ou celle-là et pourquoi pas tel autre?
En fait, je vais commencer avec parler de ce moment historique parce que c'est le premier musée de la photo au Maroc. Et pour moi, c'est un honneur d'avoir cette carte blanche, d'ouvrir ce musée. Le choix, ce n'était pas facile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de photographes, surtout les jeunes. J'ai décidé de faire les photographes de ma génération et les photographes émergents. Alors, pourquoi les deux? Parce que pour moi, il faut créer les liaisons entre les deux générations. Comme ça, on donne une énergie pour la nouvelle génération et aussi une dynamique pour la photographie marocaine. Voilà.
Au-delà de ça, au-delà du fait que ce sont des jeunes et qu'il y a des photographes émergents, est-ce qu'il y a une ligne directrice? Est-ce qu'il y a un point commun entre ces différents artistes? Une sorte, je sais pas, de communauté de pensée, une façon de voir les choses?
Je pense qu'ils sont liés à le thème qu'on a choisi. Le titre de cette exposition s'appelle Soarona, notre photo. Et ils sont tous, comment on peut expliquer ça en français, c'est ils photographent de l'intérieur en fait, ce n'est pas de l'extérieur, c'est une vision intérieure. Je donne un exemple de deux photographes jeunes que j'ai choisis. Un qui s'appelle Mourad Fedouesh. Mourad Fedouesh, c'est un photographe qui habite à Sidi Yahia. Il utilise son téléphone et il photographe son douar, le quartier à Sidi Yahia. Et le fait qu'il documente des moments très forts, comme la mort ou bien la naissance des enfants et le marché...
Il photographie son quotidien, ce qui est vraiment fait son univers direct autour de lui.
Il a une touche assez spéciale de documenter la famille, en fait. C'est comme il documente la famille et l'entourage avec une touche de documentaire social.
D'accord, je comprends. Et vous-même, qu'est-ce qui vous plaît dans la photographie? Qu'est-ce qui vous a incité à devenir photographe? Qu'est-ce qui vous a amené à cela?
Moi, j'ai fait des études de maths, c'est rien à voir avec la photo. Après, j'étais amoureux de danse hip-hop. J'ai créé un groupe qui s'appelle Hiba Kingzo, qui est devenu champion d'Afrique et champion en Europe. Et on a voyagé partout dans le monde. Et je pense de sortir au Maroc et revenir au Maroc, j'ai développé une façon de voir le Maroc différemment. Et un jour, j'ai eu une blessure dans le genou, dans une compétition à l'étranger. Et j'ai arrêté la danse et je me trouvais tout seul à la maison avec un appareil que j'utilise dans mes voyages. J'ai pris cet appareil et j'ai commencé à marcher dans le riz de Casablanca sans avoir une idée de ce que je vais faire avec les photos. Et après un an de faire les photos spontanées, j'avais pas une vision, j'avais pas, c'était plus naturel. C'est pas question de vision, mais c'était d'une approche naturelle, d'une approche de danseur qui a une caméra. Parce que je photographe, c'est plutôt comme je danse. Je prends des perspectives d'un danseur. J'ai développé une série sur Casablanca qu'il faut que je donne un nom. Et là, j'ai choisi le nom de Casablanca, not the movie, Casablanca, pas le film. Parce qu'à chaque fois que je voyage dans une compétition de danse partout dans le monde, ils me demandent « Where are you from ?»« Tu viens d'où ?» Et j'ai dit « I'm from Casablanca ». Et directement, eux, ils disent « Ah, Casablanca, the movie, very romantic, blablabla ». Moi, j'ai dit « Non, je viens de Casablanca, pas le film ». Et Casablanca, même le film, il ne s'est pas tourné à
ça
Casablanca.
Ça peut être tourné à Casablanca, absolument.
Exactement. Ah. C'est pour ça que j'étais obligé de continuer cette série et montrer Casa comme je vois et comme d'autres Casablancais le voient.
La réalité de Casablanca, le vrai visage de Casablanca.
Voilà.
Vous nous disiez que c'était un honneur pour vous de signer cette première exposition au sein du Musée National de la Photographie. On comprend à quel point ce lieu était attendu, à quel point cela représente une forme de reconnaissance pour cet art. Qu'est-ce que vous attendez maintenant de l'existence d'un tel lieu? Ça doit servir à quoi?
Moi, je pense que ce lieu-là, il a venu dans le temps exact, parce qu'il y a beaucoup de photographes dans les social media virtuels. On voit beaucoup de photos dans l'Internet, sur les réseaux sociaux. Mais un lieu comme ça, c'est comme une transformation des choses qui sont virtuelles à des choses physiques. Les choses physiques, c'est une photo imprimée dans un lieu qui est physique. Les gens, ils viennent, ils prennent leur temps de regarder ces photos. Et pour moi, ces photos-là, c'est une sorte de thérapie, c'est une sorte d'éducation, c'est une sorte de motivation aussi de d'autres jeunes qui viennent de regarder le musée, et même les enfants, parce que l'expo, c'est pas que dans le musée, c'est intérieur et extérieur. Et on a fait plus que 3 expositions à l'extérieur, et c'était vraiment intéressant qu'on était en train d'installer ces photos-là. On voit les enfants, les femmes, même les hommes vieux, et ils s'arrêtent, ils posent des questions, et ils sont contents. J'ai demandé à une femme, ça ne vous dérange pas si on fait des photos, on pose des photos là? Elle m'a dit non, c'est vraiment bien, on est vraiment contents d'avoir des choses comme ça dans notre quartier. Surtout le musée, elle est dans un quartier populaire. Et ça, c'est vraiment formidable parce que ça ouvre pour les gens de quartier un univers visuel, parce que le musée, ça ne sert pas que de montrer des photos, mais avoir des formations pour les jeunes, faire des workshops, des rencontres. Je pense que ça va être un moteur visuel, je peux dire.
Yorias, avec nous dans Ban Culture. Ouais. Merci, merci d'avoir répondu à ces quelques questions.
Merci beaucoup, et j'aimerais bien remercier M. Kotobi et toute l'équipe du musée, et aussi Karine qui a travaillé avec moi pour développer la création et la scénographie de ce musée. Et j'espère que tous les jeunes qui ont des smartphones, ils n'ont pas peur de développer des projets, parce que le bon exemple, c'est le photographe Adouache et Zaidi qui sont exposés au musée et ils ont fait les photos qu'avec un smartphone. Alors le matériel ne se compte pas, mais le contenu, ça compte, et aller éclater et faire des projets. Voilà.
Ne pas hésiter donc à prendre des photos avec son smartphone, ça peut devenir une œuvre d'art et ça peut
pour
terminer dans un musée.
Ouais. Ah. Ok,
merci.
Pas pour,
merci beaucoup, bye. Yorias.
Bye bye.
Vous n'oubliez pas Adam dans les salles de cinéma au Maroc actuellement. Nous étions avec le producteur Nabil Ayouch en début d'émission. Avec son complice, le sculpteur et écrivain Mahi Binbin, il développe depuis plusieurs années un réseau de centres culturels afin d'ouvrir les enfants à toutes les formes artistiques, un travail de terrain, en profondeur, afin d'ouvrir les esprits. Eh bien, un nouveau centre a été inauguré hier dans la ville de Fès. Là-bas, les enfants vont pouvoir découvrir, comme dans les autres centres, la musique, la danse, les arts plastiques, la photo, se mettre également aux langues étrangères. C'est le 4e centre ainsi lancé au Maroc après ceux de Casablanca, Agadir et Tanger. Coup de chapeau à ces deux artistes qui s'engagent, Nabil Ayouch et le très grand Mahi Binbin. Si vous voulez en savoir plus et si vous voulez les aider aussi au passage, le site internet, c'est fondationalizawa.org. Ban Culture, c'est terminé pour ce dimanche. À la semaine prochaine.
We're getting high, wasting time, you've got me. We're dancing.